Rétine, regardez l'entreprise autrement.
Bonjour à tous, vous écoutez Rétine, le podcast du CJD, le lieu où l'on défriche des idées, on mène des expérimentations et on regarde l'entreprise autrement. Pour cette première saison, nous vous proposons une série d'interviews avec des personnalités enrichissantes et inspirantes autour de l'économie, l'entrepreneuriat et les questions de transition sociétale et écologique. Nous recevons aujourd'hui un nouvel invité.
Une large expérimentation de la semaine de travail de 4 jours sans réduction de salaire a été conduite en Angleterre pendant 6 mois auprès d'entreprises de différents secteurs et de tailles variées. 1000 salariés pour la plus grande, 25 ou moins pour la plupart. Les résultats ont été publiés à la fin du mois de février. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette expérimentation est concluante. La semaine de 4 jours apporte un véritable plus dans la vie des entreprises qui l'ont adoptée. Côté employé, la semaine de 4 jours a rendu 39% d'entre eux moins stressés et 71% ont déclaré que leur niveau d'épuisement professionnel avait baissé. Côté employeur, les entreprises ont pu observer une baisse du nombre de démissions de l'ordre de 57% et une diminution des arrêts maladie, tandis que leur chiffre d'affaires s'est maintenu, voire s'est légèrement accru. Et en France, où en sommes-nous? De plus en plus d'entreprises l'expérimentent. Parmi elles, IT Partner, une entreprise de services informatiques dont le siège se trouve à Lyon. Rétine a le plaisir de recevoir aujourd'hui son fondateur et dirigeant, Abdennourain Seba, pour nous livrer son retour d'expérience sur l'introduction et le déploiement de cette mesure prometteuse. Abdennour, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors, Abdennourain Seba, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. C'est un peu la présentation qu'on a l'habitude de faire au CJD, au sein des jeunes dirigeants. Je dirige une entreprise que j'ai créée maintenant il y a près de 28 ans dans les métiers de l'IT. On est ce qu'on appelle un infogérant. La société s'appelle IT Partner. Aujourd'hui, c'est environ 80 collaborateurs répartis sur plusieurs agences en France, dont le siège est à Lyon. Mon parcours, je suis rentré au CJD en 2006, j'ai été rapidement président de la section de Lyon, puis président du CJD Rhône-Alpes, et puis également membre du bureau national, notamment sur les sujets du dialogue social. Voilà, depuis une dizaine d'années, je suis rentré comme administrateur, d'un think tank parisien sur le dialogue social qui s'appelle RDS, Réalité du dialogue social, qui se veut promouvoir un dialogue social loyal et efficient. Voilà. Par ailleurs, j'ai quelques engagements. J'ai été administrateur d'Handicap International et là, actuellement, je suis président d'une association qui s'appelle Les Cités d'Or, qui travaille notamment sur l'éducation populaire à la citoyenneté pour les jeunes. Voilà.
Si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tu es un pionnier sur un sujet qui maintenant est quand même assez médiatique, qui est la semaine des 4 jours. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne chez toi?
Alors, la semaine des 4 jours, comment ça fonctionne? Il y a un jour off. Qui va du mardi au vendredi, c'est-à-dire que l'entreprise est bien ouverte hein, 5 jours par semaine. Notre métier nous contraint à être évidemment ouvert tous les jours ouvrables. Le lundi, il peut pas y avoir de jour off. Et le jour off est organisé par les équipes. Ça tourne d'un trimestre sur l'autre. Voilà, donc ceux qui ont eu un mercredi sur un trimestre devront choisir le jeudi ou le vendredi, la fois d'après ou le mardi, etc. etc. Donc tous les trimestres civils, ça change. Et c'est un jour toutes les semaines. Le jour off ne peut pas être reporté sur une semaine suivante. Il est forcément pris dans la semaine. Donc si vous avez un impératif, une problématique, vous pouvez le décaler. Et si vous devez être amené à travailler 5 jours cette semaine-là, vous êtes payé une heure supplémentaire. En termes de volume horaire, on est passé donc à 4 jours, on a réduit également le temps de travail puisqu'on est passé à 32 heures, donc on a 4 jours de 8 heures aujourd'hui. On a souhaité justement que ça n'a pas d'impact en fait sur la vie personnelle des gens, donc en fait on a réduit la pause méridienne d'une demi-heure, c'est-à-dire que maintenant elle est d'une heure au lieu d'être une heure et demie. Donc les gens font 9h, 18h, mais ils commencent comme avant et ils finissent comme avant leur journée de travail. Voilà.
Et quel était ton objectif avec cette mesure des 4 jours? Tu disais que c'était aussi la partie immergée de l'iceberg, un travail de fond, et que finalement les 4 jours, c'est la partie visible, mais que le travail que tu as fait sur ton entreprise est beaucoup plus profond. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que cette idée est née durant le premier confinement en 2020 et s'était mise en place très rapidement au 1er janvier 2021. Donc maintenant, ça fait 2 ans et presque 2 mois qu'on fonctionne comme ça. Il y a eu une vraie question autour du pourquoi on travaille en deux mots, au nom de quoi on travaille. La distanciation sociale a créé une vraie distanciation également par rapport aux équipes, par rapport aux clients, par rapport à l'entreprise, par rapport au travail. Le maintien d'un niveau de salaire proche de 100%, notamment dans le syntech, a fait que les gens se sont posés la question vraiment de pourquoi ces revenus, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Le fait de ne pas pouvoir consommer également faisait que à quoi ça servait de perdre sa vie à la gagner, comme on pourrait dire.
Un questionnement existentiel.
Des vraies questions, je pense, existentielles, ouais. Des vraies questions existentielles. On l'a connu aussi bien en région lyonnaise que dans les autres territoires, hein, sur le territoire métropolitain ou ruraux, cette vraie question du rapport au travail et en fait du rapport à l'autre. Nous, on s'est posé la question de finalement comment on pouvait réenchanter, hein, le travail, comment on pouvait redonner du sens. Et on a dit qu'on devait travailler, on s'est dit qu'on devait travailler sur la notion de bien-être, hein, le bien-être au travail, comme étant un moyen de s'accomplir en tant que professionnel, mais également en tant qu'être humain, tout simplement, en tant que citoyen. On a repensé, en fait, l'ensemble des process de production. On a repensé l'organisation. On a repensé également les fondamentaux de l'entreprise, comme son ambition, sa vision, la stratégie. On a retravaillé, on a abandonné la notion de valeur pour aller sur des notions d'ambition d'être, qui sont en fait des invites à la progression et qui évitaient quelque part une subjectivité lorsqu'on parle de valeur. On est obligé à chaque fois de définir en fait tout un lexique spécifique à l'entreprise pour dire qu'est-ce que veut dire la bienveillance, etc.
Donc, est-ce que tu peux approfondir cette question-là ? C'est intéressant.
De quelle question ?
Sur la différence entre valeur et ambition d'être.
Je vais donner par exemple, c'est que nous on avait deux valeurs, qui notamment une qui s'appelait, il y en avait qui était la responsabilité et l'autre qui était la bienveillance. Et en fait, on se rendait compte que on avait des collaborateurs qui venaient d'autres entreprises qui avaient également la valeur de bienveillance. Et ils se rendaient compte que la manière de définir la bienveillance dans une entreprise ou dans une autre pouvait être très différente. Et en fait, lorsqu'on est dans une notion de valeur, on fait appel à des notions très subjectives, en fait, qui appartiennent déjà à l'individu. Puisqu'on parlait de bienveillance, de responsabilité, de citoyenneté, etc. C'est des choses avec lesquelles les personnes ont grandi. Donc, elles ont une définition, voire une expérience spécifique. Les ambitions d'être, ce sont en fait des. Je vais en donner une, par exemple, c'est l'humilité comme chemin de progression. C'est pas l'humilité comme valeur. C'est l'humilité comme chemin de progression. Donc, on n'a pas besoin de la définir davantage. On en a une autre plutôt que la bienveillance, c'est prendre soin de l'autre, quel qu'il soit. Donc, c'est une invite à agir vis-à-vis de l'autre, en pensant bien que on appartient bien à une chaîne, et parce qu'on prend soin de l'autre, à un moment donné, les autres vont prendre également soin de soi, de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment un champ qui est complètement différent. C'est vraiment une invite à la progression, à la remise en question, qui peut d'ailleurs aussi bien s'appliquer sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle.
Si tu l'as mis en place de manière assez directive.
Alors non, ça a été présenté d'abord pour une entreprise en COMEX, qui a avalisé le truc. Hein, de toute façon, en tant que dirigeant et fondateur, c'était pas très compliqué. Ça a forcément questionné les membres du COMEX là-dessus, en disant mais bon, déjà en 5 jours, on n'y arrive pas. Ensuite, j'ai présenté aux équipes la direction dans laquelle je souhaitais que nous puissions aller très rapidement dans les mois qui suivaient. En disant que globalement, on fera en 4 jours très bien ce qu'on n'arrive pas à faire en 5 jours. Donc il y avait une vraie logique, hein, quelque part, d'un effort individuel et collectif pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Donc il y a eu des négociations, évidemment, sur plein de sujets très pratico-pratiques, hein, sur ce que je vous disais tout à l'heure, les jours off, comment ça fonctionne, l'entreprise, comment elle peut continuer à fonctionner, quelles sont les règles que l'on peut attribuer, le fait de pouvoir prendre des congés par semaine et non pas par jour. Alors après, on a lâché un peu sur certains points. Il y avait des sujets sur les astreintes. Enfin là, il y a plein de sujets en fait dans l'accord, qu'on a négocié avec les représentants de personnel, avec les élus CSE, qui se sont appuyés également sur un groupe ad hoc de volontaires, parce que c'est la culture de l'entreprise autour d'une intelligence collective qui était de dire à chaque fois on propose, lorsqu'il y a des thématiques un peu qui concernent l'entreprise, on a toujours proposé, enfin toujours depuis 2017, on avait mis en place cette notion d'innovation participative et sur des sujets là on demande volontariat, ceux qui s'intéressent, et puis ils contribuent, ils travaillent sur les sujets, et puis ils font ensuite des propositions. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il a fallu quelques mois, on l'a expérimenté ensuite sur la fin d'année, sur des semaines de 4 jours et demi, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et à partir du 1er janvier 2021, ça s'est mis en place, avec un accord qui a duré 12 mois dans un premier temps, et suite à un sondage qui s'est fait en interne, qui a été mené par les élus CSE, qui a eu un retour unanime sur la nécessité de poursuivre en fait et de pérenniser cette organisation, ça a donné lieu un nouvel accord fin 2021 qui a pérennisé cette semaine de 4 jours en modifiant 2-3 choses à la marge.
Ce que tu me disais tout à l'heure en préparant cette interview, c'est que ce genre de mesure ne peut se faire que sur un terreau déjà fertile. Est-ce que tu peux nous préciser?
Ouais, il faut un terreau fertile. Alors, pour répondre aussi à ta question sur les risques, je pense que c'est en lien les deux questions. C'est-à-dire que il faut véritablement une organisation qui soit dans la relation, dans l'écoute active, dans l'humain. Si on est hanté en fait par des ratios, par des tableaux de bord très productivistes, il y a un risque quelque part de pousser en fait les gens au burn-out. Je m'explique. Aujourd'hui, 2 ans après, nos collaborateurs sont vraiment très attachés à ce jour off. Alors c'est ça qui est assez curieux. On pensait que ça allait attirer des talents parce qu'on est dans un métier où on manque cruellement en fait de collaborateurs. On est difficile d'attirer les talents. Ça n'a pas fait. On n'a pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement beaucoup plus de gens qui sont venus. Et souvent les gens, ils savent pas trop. C'est trop disruptif. C'est trop différent pour que les gens puissent mesurer ce que vaut véritablement un jour off toutes les semaines. Mais quand ils y sont, ceux qui viennent chez nous, le jour off est important et à l'usage, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont, voilà, de l'exception dont ils font partie dans leur milieu, notamment social et familial, de la fierté en fait d'appartenance à l'entreprise, d'être la personne qui bosse 4 jours par semaine. Et ça, ils le mesurent chaque semaine. C'est-à-dire que quand votre conjoint se lève pour aller bosser, que vous avez votre journée off et que vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez, ils mesurent leur chance. Lorsqu'il y a des réunions familiales, vous êtes la personne qui travaille dans une entreprise exceptionnelle parce que vous travaillez 4 jours par semaine. Donc, si l'entreprise est exceptionnelle, c'est que vous aussi, vous êtes exceptionnel. Donc, il y a une vraie valorisation, en fait, de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un véritable attachement à l'entreprise et à la mission, en fait, qu'occupent nos collaborateurs. Et donc, le risque que l'on peut avoir, c'est d'avoir des managers qui vont pousser les collaborateurs beaucoup trop dans une logique, quelque part, de produire toujours plus, toujours mieux. Et donc, parce que les collaborateurs se disent, mais si je quitte l'entreprise, ailleurs, je ne retrouverai pas cet environnement-là. Je ne serai plus quelqu'un d'exceptionnel dans une entreprise exceptionnelle. Donc, le risque, me semble-t-il, est celui-ci. C'est véritablement d'être à l'écoute des signaux faibles et de faire attention à prendre soin, hein, comme je le disais tout à l'heure, à prendre soin des collaborateurs pour qu'on soit dans une logique de bien-être, non pas dans une logique de confort, mais dans une logique de bien-être, c'est-à-dire que les amener en fait à progresser, les amener parfois à prendre certains risques, évidemment, mais des risques mesurés, en les assurant que l'erreur ne sera pas comprise comme une faute, mais bien comme une erreur, et par cette erreur, l'opportunité de grandir.
En conclusion, un mot que tu souhaites peut-être dire, un conseil auprès de dirigeants qui se posent des questions par rapport à la semaine des 4 jours.
En tout cas, le résultat qu'on en a, c'est que on est très content de cette semaine de 4 jours. On a amélioré la qualité perçue par nos clients est réelle. Les retours que nous en avons sont très positifs. Il y a un véritable attachement des collaborateurs à leur mission, à la satisfaction de travailler. Donc, je pense que c'est très positif. Maintenant, c'est un outil, c'est pas une finalité, c'est un outil. Je pense que toutes les entreprises vont devoir se questionner sur le rapport qu'ont leurs collaborateurs au travail. La semaine de 4 jours est un outil, à mon avis, ce n'est pas l'outil. Il y en a bien d'autres. Je pense qu'il faudra de toute façon faire preuve d'innovation, d'une innovation sociale dans nos entreprises, repenser la manière qu'on a de travailler, de repenser le rapport au travail des collaborateurs. La semaine de 4 jours, je le répète, à mon avis, n'a pas vocation à devenir universelle. Elle fonctionne dans mon entreprise. Ça veut pas dire qu'elle fonctionnera dans d'autres. Il faudra forcément chercher d'autres choses qui correspondent à chacune des entreprises. Mais je pense qu'il faut être un peu vigilant parce que pour que ça fonctionne, il faut une entreprise solide. Revenir aux fondamentaux de est-ce que vous avez un compte de résultat qui est positif? Est-ce que vous êtes solide sur votre base? Est-ce que vous êtes solide sur votre marché? Parce que vous pouvez mettre en péril votre organisation, ça peut très bien ne pas fonctionner, et le retour en arrière est quasiment impossible. Donc là encore, j'insiste, la semaine de 4 jours, ce n'est pas la solution, c'est une solution, éventuellement, mais il faut bien penser à mesurer quels sont les impacts sur notre organisation et choisir le bon outil, celui-ci ou un autre. Mais il faudra bien en choisir un dans les prochaines années.
Abdennour, merci.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Rétine, le podcast du CJD. Nous espérons qu'il vous a permis de poser un nouveau regard sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire ou à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré. Vous pouvez également découvrir nos articles sur www.dirigeant.fr et suivre toutes les actualités du CJD sur nos réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Rétine. À bientôt!
Rétine, regardez l'entreprise autrement.